C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui alerte sur la prolifération de paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Chaque semaine, nous analysons l'impact du langage, des discours, de mots, des réalités sociales et politiques. Je m'appelle Ronéline Tibonera et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet à la fois complexe et intéressant. À mes côtés, ma coprésentatrice Babel Mpongo. Bonjour Babel.
Bonjour Onélie, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un phénomène qui soulève de nombreuses questions, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan moral. Dans cet épisode, nous parlons du soutien de plus en plus marqué des masses populaires aux acteurs politiques qui exploitent et abusent des discours de haine.
Absolument Babel, ce sujet prend une résonance particulière avec la récente réélection de Donald Trump aux États-Unis. Ce candidat s'est distingué par de propos souvent considérés comme extrémistes, discriminatoires, voire racistes. Mais ce qui nous intrigue encore plus, c'est l'enthousiasme que cette réélection semble susciter auprès de plusieurs citoyens congolais, malgré les attaques directes de Donald Trump contre la RDC et ses habitants.
Oui, Donald Trump avait qualifié plusieurs États du tiers-monde, y compris la RDC, de pays de merde. Le milliardaire américain a également décrit les réfugiés congolais comme des criminels et des bandits. Pourtant, l'homme politique américain reçoit un soutien notable de plusieurs Congolais qui n'hésitent pas à l'exprimer sur les réseaux sociaux.
Et ce phénomène est loin d'être un cas isolé aux États-Unis. Des acteurs politiques qui fondent leur stratégie politique autour des discours polarisants ont également le vent en poupe en Europe occidentale et même en Afrique, y compris en République démocratique du Congo.
Alors René, comment analyser ce soutien à ces acteurs politiques controversés qui n'hésitent pas à multiplier de sorties médiatiques corrélant racistes, sexistes, nationalistes et même tribalistes? Quelles conséquences ces types de langage ont-ils sur nos jeunes démocraties? Pourquoi de plus en plus d'Africains et de Congolais choisissent-ils d'ignorer, voire d'excuser ce discours de haine? Voilà nos questions.
Pour réfléchir autour de ces paradoxes, nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir deux invités. Le premier est Christian Moleka. Il est analyste politique, initiateur du Politoscope, une plateforme dédiée à l'analyse de la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Bonjour Christian Moleka.
Bonjour Ronélie, bonjour Babel.
Merci Monsieur Moleka d'avoir répondu à notre invitation. Notre second invité est Emmanuel Nakasane Namegabe. Il est président du conseil d'administration de l'association Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs, UPLA. Bonjour Monsieur Emmanuel Nakasane.
Bonjour, bonjour Ronélie, bonjour Babel, bonjour aussi à Christian et sans oublier les auditeurs de la radio Café.
Merci à tous les deux de vous joindre à cette discussion. Tout au long de cette émission, vous allez nous aider à comprendre les raisons et les conséquences du succès de plus en plus marqué des acteurs politiques qui font recours à un langage extrême, violent, polarisant.
Mais avant cela, avant de plonger au cœur de cette discussion qui s'annonce passionnante, je vous invite à écouter un premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette scène se déroule dans le cadre d'un milieu universitaire avec des étudiants. On va voir comment ils réagissent face à un de leurs camarades qui discrimine et insulte certains étudiants du campus. On écoute.
Aujourd'hui, c'est un jour historique. Une nouvelle ère s'ouvre pour le football universitaire.
Wow. Entendez, c'est la voix de Moïse.
Les gars, ce que vous écoutez?
Chut. Pas trop de bruit. Nous écoutons les discours de Moïse qui vient d'être élu chef de la Fédération Interuniversitaire de Football.
Oui.
Viens. C'est ici. Viens
s'occuper. Viens écouter avec moi.
Dibadia Kumbay. Il est temps de nettoyer la fédération de tous les sales et mauvais joueurs. En écartant toutes les équipes merdiques qui n'ont rien à apporter à la compétition.
Ouais. Ça, c'est une bonne idée.
Comme mon slogan l'indique, je vais rendre les footballs universitaires de nouveau grands. Vous avez ma parole.
Wow, quel discours, hein? Quel discours, mon Dieu. Mais ça fait rêver. Voilà un brave qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont.
Quoi? Qui vous sauve? Mais il ne fait que proférer des insultes, excusez-moi. C'est grave, ça. C'est vraiment grave.
Non, Mbuta, non.
Mais est-ce que tu entends ce qu'il a dit?
Mbuta, écoute, il est plutôt exceptionnel. Hein? Aujourd'hui, je le surnomme le crasseur des vérités.
Sérieusement, les gars, vous trouvez que ce langage de traiter certains joueurs de saleté à nettoyer est vraiment digne d'un chef de fédération? Sérieusement.
Au moins, lui, il n'est pas hypocrite comme ses prédécesseurs qui montraient dans leur langage qu'ils étaient bons. Mais qu'en réalité, il ne faisait que détruire les équipes à petit feu.
Oui, c'est ça. Oui, mais je vous assure, avec Mbouy, comme nouveau chef, les choses vont changer.
Je te dis.
Moi, je reste convaincu que seules les meilleures équipes vont servir aussi.
Mais mon truc est Bakissa Beno vert. Je ne vous comprends pas. Comment pouvez-vous soutenir un chef qui ne fait rien d'autre qu'insulter et humilier les membres du foot?
Et alors, bah,
et alors
il a insulté. Mais quand on soutient un chef pareil, excusez-moi, on perd l'essentiel. Notamment le respect pour chaque équipe, l'indépendance, l'amitié, la camaraderie et la confiance entre tous les joueurs.
Qu'est-ce que tu en sais?
Pour vous, tout ça, ce n'est rien.
Oh, s'il te plaît, arrête-toi.
Traiter certains joueurs des saletés à nettoyer est-il vraiment digne d'un chef de la fédération? Demande l'un des étudiants dans cet extrait, Christian Moleka. Comment peut-on analyser ou comprendre que le public accorde de plus en plus sa sympathie à des leaders politiques qui tiennent des discours insultants, racistes, sexistes, tribalistes, voire haineux?
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. On peut prendre un faisceau de faits. Le premier, c'est généralement ces discours naissent dans un environnement de crise. Lorsque la société est en crise et que les gens ne croient plus au leadership existant, considéré comme faible ou ne défendant pas suffisamment leur argumentaire. Lorsque les partis classiques donnent plus d'une offre nouvelle. Et cette recherche d'un son nouveau, d'une voix nouvelle, fait que ceux qui viennent incarner le non politiquement correct, le discours tranchant, un retour d'autoritarisme et parfois une simplification du débat, ce qui attire généralement l'attention populaire. Quand les acteurs classiques vous proposent avec un politiquement correct un discours parfois complexe que l'opinion ne peut pas comprendre, le populiste, il amène un discours simplificateur qui vous dit votre problème c'est l'immigré, votre problème c'est l'étranger, votre problème c'est celui-ci. Ce discours est tellement facile à passer, il se tient avec parfois un langage simplifié qui ne prend pas la sophistication du discours politique, qui fait qu'il parle quelquefois directement aux gens. Que le discours classique des acteurs. Donc vous prenez le contexte de crise, vous prenez ce qui est en crise, la faillite des idées classiques, ou même de l'offre politique existante, vous y ajoutez la simplification du discours, la démagogie, et vous y ajoutez également une forme de charisme autour de l'autorité ou l'autoritarisme puissant, qui rassure face à un chaos peut-être existant. C'est ce qui fait que généralement, de tels leaders, vous le verrez de droite ou de gauche, incarner une forme d'espoir face à ce que le présent peut considérer comme un moment d'incertitude.
Merci, Monsieur Moleka, pour cette première intervention. Je me tourne vers vous, Emmanuel Niakasani. Au lendemain de la réélection de Donald Trump, on a constaté que plusieurs Congolais ont exprimé leur soutien à ce candidat qui a pourtant tenu des propos clairement racistes et discriminants contre les Africains, en particulier contre les Congolais. Pour vous, comment comprendre ce soutien à cet homme politique controversé?
C'est lui qui est fatigué. A toujours cherché des solutions un peu partout. Il y avait tout ce qui se passait dans les réseaux sociaux que chaque fois quand les démocrates sont au pouvoir, pour eux, ils sont pour la guerre dans notre pays, ils sont pour les perturbations en Afrique. Et tous les Congolais pensent qu'avec l'avènement de Donald Trump, pourraient quelque part contribuer à juguler les guerres incessantes qui secouent la République démocratique du Congo. Plus particulièrement l'est de notre pays. Il y a certains Congolais qui pensent que Donald Trump, en critiquant les Africains, en critiquant les dirigeants africains, plus particulièrement les Congolais, vous savez, il y a celui qui interpelle même en critiquant, parce que dans d'autres cieux, nombreux se moquent de nous en voyant notre manière de réfléchir, notre manière de penser, notre manière d'agir. Il y a ceux qui pensent que nous sommes des extraterrestres.
Merci encore une fois, Emmanuel Niakassané. Nous allons passer à présent à notre deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec les étudiants. Cette fois-ci, ils vont expérimenter les dangers potentiels des discours polarisants auxquels recourent certains leaders peu scrupuleux. On écoute.
Attends. Apparemment, j'ai l'impression comme si tu ne comprends rien. Écoute, Mbouta, arrête de nous faire de leçons de morale. Nous, là, on n'en a pas besoin. Ok? Et on s'en fout du type de langage que Mbouyi utilise. On s'en fout. Le plus important, c'est qu'il a la carrure d'un vrai. Ouais. Alors, d'un vrai chef.
Ah oui. Ouais. Ah oui, t'as absolument raison.
C'est le plus important.
Un chef qui n'a peur de personne et qui ne mâche pas ses mots comme tous les diplomates qu'on a eu avant, là.
Voilà, c'est exactement le genre de chef dont on avait besoin. Quelqu'un qui a un ton imposant et qui pourra faire peur aux équipes des autres universités. Hein? Un ton imposant. Sera le mot de l'équipe, non, c'est Kotimaï.
En fait, vous savez que je ne vous croyais pas aussi con.
Quoi? Non, attends, je ne vous croyais pas aussi con. Non, mais elle nous traite de con, là.
Ça, c'est grave.
Attends, j'ai pas bien entendu.
Mais vous êtes aveugle ou quoi? Dites-moi. Vous ne pouvez même pas comprendre que lorsque Mbouyi parle d'équipe merdique à écarter ou de saleté à nettoyer, il parle de vous.
Tais-toi.
Il parle de vous.
Tais-toi, je dis,
mais attends, vous faites aussi partie de sa longue liste de tous ceux qui sont nuls.
Non, mais tu l'as, vous êtes con. Ferme.
Ferme ta bouche, là.
C'est plutôt toi la conne qui préfère.
Non, c'est vous les cons. C'est vous deux les cons.
Qui n'ose pas de dire les choses telles qu'elles sont. C'est plutôt toi la conne.
Franchement, quoi.
C'est quoi ça? On est où là?
Vous savez, c'est vraiment triste de voir que vous vous laissez influencer par ce langage de bravoure. Ça me dépasse, quoi. Comment oser soutenir un chef comme Bouy qui n'abuse que des paroles de haine? Sincèrement,
non, parce que c'est pas hypocrite.
Vous partagez avec le diable.
Non, parce que c'est pas hypocrite. Et qu'est-ce que c'est, toi?
C'est vous qui êtes hypocrite. C'est vous qui êtes hypocrite. On va se frapper.
Oui,
je vais me toucher moi.
Tu nous as traité de tous les mots ici.
Tu vas me toucher moi.
Si, je vais te toucher.
Mais vas-y.
Vas-y.
T'as intérêt à la retenir. Sinon, je vais la frapper, celle-là.
Non, mais.
Nous, on s'en fout du type de langage que Mbouyi utilise. Le plus important, c'est qu'il a la carrure d'un vrai chef, déclare l'un des étudiants dans cet extrait, Christian Moleka. Quelles conséquences pour un pays comme la RDC si une partie de la population soutient les acteurs politiques qui tiennent de propos clairement racistes, tribalistes, sexistes, insultants, comme c'est le cas de Donald Trump?
Le sketch est vraiment fidèle parce qu'il reprend fidèlement, si ça peut me répéter, les éléments de présentation du populiste, à savoir... Quelqu'un qui a un franc-parler, qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas comme les diplomates, et qui vous rassure par une forme de carrière autoritariste, parce qu'il vous donne l'impression d'avoir de la sécurité derrière lui. Alors que ces gens divisent et clivent la société en opposant les différentes composantes de la société. Partout où les populistes ont pris de l'ampleur, ils ont divisé, soit en utilisant des éléments identitaires, soit des éléments racistes, soit des éléments sociétaires, si je peux dire, entre travailleurs et non-travailleurs, entre les passifs et les actifs, mais ils divisent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont opposer les communautés, qui finalement, ça peut finir en affrontement. On peut prendre l'histoire la plus récente. Vous suivez l'actualité mondiale. Il y a eu récemment des émeutes à Londres. Mais il est dû à quoi? Il est dû à un discours construit par les partis extrémistes autour des musulmans, des immigrés, qui auraient agressé des enfants alors que c'était une désinformation. Et puis ça a créé des émeutes. Vous allez en France, vous avez le même problème de clivage aux États-Unis. Et donc, ce genre d'acteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent la société en plusieurs sous-systèmes ou sous-ensembles qu'ils opposent avec le prisme des clivages, qui peuvent être des clivages religieux, des clivages culturels, et vous avez une société en tension entre les différentes factions et une société qui difficilement se réconcilie. Les populistes prennent le pouvoir et laissent derrière eux des sociétés divisées, fragmentées, fracturées.
Donc les populistes utilisent en quelque sorte aussi les failles qu'on retrouve même dans la société ou bien au sein de la classe dirigeante.
Effectivement, ils utilisent des peurs, ils réveillent de peur sur des questions complexes, mais en l'abordant avec beaucoup de simplicité. Par exemple, si on vous dit que c'est l'étranger qui vous vole votre emploi, c'est qu'on ne vous dit pas que le national ne veut pas prendre parce qu'on paye mal, et que c'est l'étranger qui vient, par exemple, être éboueur dans votre pays. C'est qu'on vous dit pas, c'est qu'il y a une crise économique qui a détruit votre tissu économique, votre tissu industriel, et qu'il y a moins d'emplois, non pas parce que l'étranger vient, peut-être qu'il représente 0,1%, mais parce qu'il y a plus d'emplois suffisamment pour les cadres. Parce que vous avez peut-être délocalisé les entreprises. Vous voyez, on simplifie les problèmes en présentant des aspects facilement compréhensibles, mais qui masquent les vrais enjeux. Nous, avec notre voisin Brazzaville, il n'y a pas très longtemps, on a eu des tensions entre les pays. On a justifié le fait de chasser des millions de Congolais sur base des discours simplistes, mais qui montrent qu'on peut construire des questions explosives en abordant de la simplification. Par exemple, nous sommes mis au nom par les étrangers qui viennent chez nous parce que les frontières sont ouvertes, qu'il faut chasser les immigrés, et lorsqu'on les aura chassés, le pays ira mieux. C'est simplificatoire, mais pour certains, ça paraît tellement réaliste ou réalisable que ça séduit, alors que ça n'aborde pas les questions de fond, que ce sont des questions de réformes, que ce sont des questions de gouvernance, et ça présente des solutions faciles à des questions complexes.
Merci, Monsieur Moleka. Emmanuel Niakasane, peut-on envisager le risque que ces leaders extrémistes, similaires à Donald Trump, puissent émerger en RDC et ailleurs, en s'inspirant de la stratégie de cet homme politique américain qui propage des discours haineux polarisants, en espérant obtenir un soutien populaire massif?
Malheureusement, madame, ces gens ont déjà émergé en RDC. D'ailleurs, je pense que leur bastion se trouve en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu, plus particulièrement dans la ville de Goma. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a des quartiers propres à plus de 90% pour telle communauté ou telle autre communauté. Il y a aujourd'hui dans notre province des postes à caractère tribal, ça je vais être clair. Et quelqu'un est né sachant que d'ailleurs moi, je n'ai pas intérêt à travailler pour ces sources-là parce que n'étant pas de telle communauté, il y a des avantages que je n'aurai jamais malgré ma force, malgré mon potentialité. Et je veux donner un cas récent. Vous savez, nous à l'Union pour le progrès, la lutte contre les antivaleurs, nous nous battons inlassablement contre ce genre de division, en montrant qu'un jour nous pourrons recourir à certaines valeurs léguées par Mobutu, qui, au premier démembrement de l'ancien Kivu, nous avons vu les gens comme Conde de Villa Kikanda de Reuse Mémoire, qui était gouverneur de la province du Nord Kivu. Nous avons vu aussi Kivu d'autres qui n'étaient pas même pas de la province, ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, être des bons gouverneurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il y a ce genre de discours qui ont élu domicile et propagé par des grands hommes. Il y a des gens qui n'ont aucun charisme pour convaincre la population. Il y a des gens qui n'ont aucun plan présenté à la population. Et le mal, c'est que nos autorités voient ça. Tous les véhiculateurs de ce genre de messages, malheureusement, au lieu de les réprimander, ils sont gratifiés par des grands postes, soit dans des gouvernements provinciaux ou au gouvernement national. Vous savez qu'on a massacré les gens à Goma les 30 août 2023, qu'on appelle les Bazalendo. Moi, j'ai toujours demandé qu'on pardonne tous les militaires arrêtés dans ce carnage-là. Pourquoi ? Ces militaires avaient reçu des forts renseignements, toujours dans le cadre de la thématique, montrer que d'abord il y a des notables du Nord Kivu qui ont véhiculé une semaine avant le carnage et qui ont montré à cette unité spéciale que ces Bazalendo, dont le pasteur Frank Bisimwa était frère à Bertrand Bisimwa, comme il s'appelle Bisimwa, qu'il aurait tué les gens à Bukavu avec son équipe, il s'enfuit ici, et qu'ils organiseraient la chute de la ville de Goma. Des propos comme ça ont fait une semaine en train de circuler. Et moi, j'ai toujours pensé que tout militaire sérieux devrait faire ce que ces militaires avaient fait le 30 août 2023. Donc, voilà un peu que nous sommes dans un pays aujourd'hui où ces discours se propagent. Malheureusement, rien n'est fait. Peut-être c'est la radio au café avec ces émissions pareilles qui montre que les gens meurent matin, midi, soir à cause de ce genre de discours. J'étais au Katanga, précisément à Lubumbashi. Vous pouvez être dans un débit de boisson en train de prendre un sucré. Mais je vais vous dire, même si quelqu'un ne connaît pas que vous êtes Kassaïen, qui commet une erreur, il va dire, vois-moi celui-ci, c'est un Kassaïen. Alors, vous comprenez ce genre de discours, on ne punit pas. Et ça va malheureusement de génération en génération. Et l'unité léguée par Mobutu est en train de s'effacer au fur et à mesure. Et nous risquerons dans peu de temps, parce que moi j'ai toujours pensé que ces genres d'antivaleurs sont propagés par les élections. Je venais tantôt de dire que quelqu'un qui n'a pas de charisme pour unir tout le monde autour d'une idéologie se focalise à la division, au discours de ces gens, pour s'attirer les électeurs de sa communauté. Comme ça, les électeurs de sa communauté pourront comprendre que celui-là vient aider exclusivement sa communauté-là. Avant l'avènement du terme Mousalène du Nord Kivu, il y avait des groupes maïmaï à caractère communautaire. Chaque communauté voulait avoir son groupe pour les sécuriser. Et ça, c'est très, très grave. Et nous voulons que notre gouvernement, nous tous, nous nous battions pour que nous puissions constituer un État où les gens comprendront que tout le monde peut servir partout dans ce pays.
Merci encore une fois de plus pour cette analyse, Emmanuel Niakassané. Nous allons passer à présent au troisième et dernier extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec les étudiants. On va voir les leçons qu'ils tirent de l'usage de ce type de langage extrémiste.
Amani, tu as vu cette nouvelle?
Mais quelle nouvelle?
Mais tu, quoi? Tu l'as vu?
Qu'est-ce qu'il y a?
Hein? Nim, j'apprends que quelques membres de notre équipe de foot viennent d'être tabassés par des partisans d'Imbouyi.
Et pourquoi donc?
Non mais, on dit que ces partisans disaient que Mbouyi, dans son speech, leur a autorisé de donner une leçon à tous les mauvais joueurs.
Hein? Vous comprenez maintenant à quel point c'est dangereux d'avoir un chef comme Mbouyi qui abuse des paroles de haine envers une autre équipe comme la vôtre. Vous voyez? Vous comprenez?
Comment est-ce que j'ai pu être tellement naïf jusqu'à ce point, Seigneur?
Non mais, depuis que l'équipe de notre université avait été éliminée injustement à cause de cet ancien chef qui avait fait des magouilles, des choses, patati patata, enfin, on est devenu
C'est ça. Grave. Hein? L'ancien chef n'avait pas de charisme. Mais il n'était pas capable de plaider en faveur de notre équipe.
Mbouta, il faut aussi comprendre que cela nous a tellement frustrés et on ne rêvait que d'avoir un nouveau chef plus agressif. Et c'est comme ça que nous sommes devenus insensibles au danger des paroles de haine tenues par Mbouyi. Donc, tout ça vraiment désolé pour nous.
Moi, tu comprends maintenant. Tu comprends.
Désolé.
Nous ne devons pas oublier que ces paroles de haine se traduisent vite en conflits violents, comme vous venez de le voir avec vos camarades.
Ouais.
En tout cas. Tu as complètement raison, Mbouta. Où qu'on a chéré, Yakabis. Je viens de comprendre qu'il est important de soutenir un bon chef. Quelqu'un qui est plutôt inclusif et non exclusif.
Nous ne devons pas oublier que ces paroles de haine se traduisent vite en conflits violents, comme vous venez de le voir avec vos camarades. Fait remarquer un des étudiants dans ces sketchs, Christian Moleka. Les acteurs politiques qui recourent à l'usage de paroles haineuses semblent avoir de plus en plus des succès. On l'a vu avec la réélection de Donald Trump aux États-Unis et l'émergence d'autres leaders extrémistes ailleurs dans le monde. Que font la société civile ou les organisations comme le Politoscope que vous dirigez pour alerter sur les risques que représentent ce type de discours sur la cohésion de nos sociétés, de nos jeunes démocraties?
Oui, la question est très pertinente. Nous, au niveau du Politoscope, ce que nous faisons déjà, c'est de monitorer. De monitorer, de montrer qu'il y a cette violence latente dans les débats publics. Les gens banalisent cette brutalité dans les discours politiques des acteurs. Mais si vous suivez le débat aujourd'hui, que ce soit pour la Constitution ou toutes les questions, il y a une forme de radicalité, de brutalité dans les débats qui fait qu'on conforte cette violence verbale qui est devenue coutumière du débat politique. Et nous alertons sur le fait que cette banalisation de la violence par le verbe ne fera qu'entraîner une culture de la violence qui va sortir du champ du politique pour aller vers le champ social. Ensuite, cette façon de faire de la politique qui consiste à mobiliser l'ethnie comme mécanisme d'accession au pouvoir, parce que généralement, au Congo, très peu d'acteurs proposent un programme politique et donc utilisent davantage la mobilisation ethnique comme escalier pour prendre le pouvoir. Mais cette façon de faire les choses ne fera que conforter les tensions intercommunautaires et fragiliser les vivre ensemble. C'est un travail de longue haleine et merci à Radio Capi également de nous donner la possibilité, par vos micros, de toucher des millions de Congolais et de faire comprendre que les peuples sont à la fois victimes et complices de leurs propres bourreaux, parce qu'ils participent d'une certaine manière à entretenir le système en apportant de l'eau dans le moulin de ceux qui font ce genre de discours-là.
Merci, Monsieur Mondeka. Vous nous parlez notamment de l'importance de la sensibilisation dans la formation de la population pour qu'elle puisse être à même de faire preuve d'éveil en écoutant les discours des politiciens, savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais dedans et quoi tirer.
Pour, et sanctionner. Voilà. Et ne pas voter parce qu'il vous dit que je suis de chez vous. Oui, tu es de chez nous, d'accord, mais en quoi ça règle mon problème à Mwenga? Ou à quoi ça règle mon problème à Arou? En quoi le fait que tu es de chez moi, ou tu parles de ma langue, règle le problème de Walikale? Moi, je veux que tu me dises, si je suis élu, voici ce que je ferai pour Walikale. Voici ce que moi je ferai pour Inongo. Voici ce que moi je ferai pour Lissala ou pour Zongo. S'il ne t'apporte pas des projets qui rencontrent tes préoccupations, et qu'il utilise un discours sournois qui te flatte ton ego en disant que vous êtes la meilleure tribu du monde, que vous êtes le plus intelligent, que vous méritez de dominer sur les autres, et ça ne répond pas à vos problèmes, vous devez dire non.
Merci, M. Mondeka. La dernière question est pour vous, M. Emmanuel Niakassane. Comment, selon vous, arriver justement à ce stade où la population exige de ses leaders politiques qu'ils utilisent un langage plus inclusif, moins clivant et surtout plus respectueux?
Même si on n'apprend pas à penser comme on apprend à souder, chaque trimestre, l'association IPLA organise des grandes activités dont l'objectif c'est contribuer au vivre ensemble dans notre pays. Où nous amenons tout le monde à se mettre autour d'une table, nous mangeons, nous buvons nos repas culturels africains. Et cela contribue à chaque fois à amener la population à accepter que le vivre ensemble est une réalité. Mais aussi un autre élément, nous cessons de faire le plaidoyer auprès du gouvernement, parce que c'est le gouvernement aussi qui contribuerait à juguler ce genre de choses. Vous savez, quand déjà une population est rendue pauvrissime comme la population congolaise, ces mêmes gens avec leur discours de haine, comme vient de le dire le co-débatteur Mondeka, ils vont revenir demain avec des milliers d'argent, ils vont partager 5 000 francs, 2 000 francs à cette population, et la population n'aura pas d'autre voie, parce que même c'est lui qui aura l'idée de changer réellement la République démocratique du Congo. Sans moi, je veux vous rassurer qu'ils ne l'accepteront pas, parce que la population, on dirait, elle aussi est aveuglée d'une manière ou d'une autre. Il faut de grandes sensibilisations, et plus ceci dit, pour voir si peut-être dans 10 ans, nous pouvons arriver à avoir une population mûre qui ne se fera pas berner par n'importe quel vent. Au fur et à mesure, nous sensibilisons. Au fur et à mesure, il y aura 2 ou 3 qu'on ramasse. Et si tout change, nous allons nous rassurer qu'ils contribueront aussi au changement. Sinon, si on ne le fait pas, c'est là aussi que je finis, madame, en disant. Les gens aussi qui propagent ces messages de haine, ils doivent comprendre une chose. Ils passeront, mais leur communauté resteront. Parce que c'est ça aussi le mal. Une seule personne peut faire, comme on dit en philosophie, la conclusion par analogie. Moi, je peux commettre une chose qui fera que toute ma communauté puisse en subir les conséquences, même après 10 ans ou 15 ans. Mais malheureusement, quelqu'un, après avoir pris sa bouteille, peut prendre le luxe de prendre des paroles, prendre des propos, haineux contre XY, mais ses propos, comme tous ces pays ici-bas, ça pourra avoir les répercussions sur sa communauté même après 10 ans ou 20 ans.
Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cet épisode et c'est le ton qui fait la panique. Ensemble, on a analysé comment les acteurs politiques abusent des discours haineux, polarisants, semblent de plus en plus obtenir l'adhésion de masses populaires, mais aussi les conséquences de ce type de langage clivant sur la cohésion de nos communautés.
Oui, Renouli, comme nous l'avons vu, cette problématique des discours politiques haineux dépasse les frontières des États-Unis ou de la RDC. Et cela nous interpelle tous sur le pouvoir des mots dans nos sociétés.
Absolument, Babel. À travers les analyses de nos invités, Christian Mondeka, Emmanuel Niakassane, nous avons compris que ces discours populistes, souvent violents, répondent à des frustrations sociales et politiques, mais ils représentent aussi un danger réel pour la cohésion sociale, la démocratie et même la dignité humaine.
Des leaders populistes comme Donald Trump exploitent les vulnérabilités de leurs électeurs pour asseoir leur pouvoir, mais il revient à chacun de nous de ne pas succomber à la fascination de ces discours. Le défi est grand, il est vrai. Comment développer un esprit critique face à des propos simplistes qui séduisent et divisent en même temps, Rondi?
Merci à nos invités Christian Mondeka, Emmanuel Niakassane pour vos précieuses contributions à cette réflexion. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.
Vous écoutiez C'est le temps qui fait la panique, une émission proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Capi.
On se retrouve vendredi prochain à 8h30 pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous avez manqué cet épisode, pas de panique. Vous pourrez le réécouter samedi à 11h05 et 19h05 sur les ondes de la Radio Okapi ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abarirdc.net.
Et surtout, n'hésitez pas à partager vos réactions sur nos pages Facebook et X, que ce soit celle de Radio Okapi ou d'Abari RDC. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de C'est le temps qui fait la panique. Bonsoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.